France Culture.
À Voix Nue, épisode 4, on ne gravit ce monde que mot à mot. Bonjour Oxmo Puccino.
Bonjour.
C'est une phrase tirée de la fiction pour Arte Radio, Gravir ce monde, que vous avez faite en 2014, pour parler, dans ce quatrième temps de nos Awanus, de vos débuts. Débuts que j'ai élargis un peu, puisqu'on va parler des 15 premières années, c'est-à-dire en gros 1995-2010. Pour commencer, je crois qu'avant de commencer à écrire et composer vos propres morceaux, vous avez beaucoup tenté et beaucoup échoué, comme comme vous dites dans Perdre et gagner sur l'album L'Hippopète Bar. J'ai fait du cash avant de rapper et j'aurais jamais su avant que j'aurais gagné ma vie honnêtement.
Ouais.
Peu de gens le savent, c'est l'interlude de L'Hippopète. Non, d'ailleurs, c'est l'interlude de l'album Oxmo Puccino qui est
Opéra Puccino.
Qui est le premier album. Ça veut dire qu'avant de commencer, vous avez cherché, tâtonné.
Oui, bien sûr.
Mais vous saviez que vous vouliez faire de la musique? À quel moment vous vous êtes dit « je veux faire de la musique » ?
J'ai jamais vu la musique comme un métier avant mes 27 ans.
Ah, c'est précis.
Oui. Je voyais la musique comme un plan, comme une passion, mais pas comme un métier parce que je n'avais pas de précédent, de carrière, d'exemple de carrière. Et surtout, je pouvais pas me projeter parce que c'était une musique qui était donnée vivante, enfin morte pour l'année d'après. Et donc, j'ai procédé pas à pas, projet par projet, le temps que ça pouvait durer dans ma tête.
Mais quand vous avez commencé, est-ce que c'était comme tous les jeunes à ce moment-là, dans votre chambre, avec des copains
Oui.
Vous, c'est d'abord
non,
les textes.
J'écrivais avec des amis, pour une amie particulièrement, Nadine, que je cite tout le temps parce que c'est mon amie encore aujourd'hui. Elle m'a beaucoup apporté. Et elle avait ce groupe qui s'appelait Les Drôles de Drame, avec Ange et une autre chanteuse dont j'ai oublié le nom. Et elles étaient trois. Ce qui était à l'époque, ça fallait pas manquer de courage pour pouvoir monter un projet comme ça, talentueuse. Et elle m'a demandé d'écrire des textes, à ma surprise. Donc je me suis découvert une capacité d'auteur. J'ai rencontré d'autres rappeurs, avec qui je me suis bien entendu. J'ai essayé un texte pour moi, vraiment, pour quelque chose qui me tenait à cœur. Je l'ai fait écouter et mes proches m'ont dit que c'était intéressant. Et donc j'ai recommencé. Jusqu'à ce que j'ai une cassette qui tourne dans le quartier, qui fasse du bruit, qui me fait décider à franchir le pas.
À l'époque, de quoi parlaient vos textes? Vous en souvenez?
À l'époque, ils parlaient de mon... le premier texte s'appelle « Bonhomme de neige ». Et c'était une espèce d'allégorie, métaphore de la neige et de la cocaïne, parce que j'ai grandi dans un quartier qui a été très touché par ça. Je parlais de mes amis et de mon quartier.
Voilà. De votre vie.
Oui, exactement, ma vie. De ce que je voulais, de ce qui me fâchait. Et j'ai perçu les résonances autour de moi. Ça m'a donné assez de confiance pour continuer.
Est-ce que vous voulez bien que Oxmo Puccino nous parlait de la ligne du bus 183A?
Ah, merci.
Qui est, vous dites, là où le rap français est né.
C'est la ligne du rap français. La ligne 183A, elle partait de Porte de Choisy, c'était un bus accordéon. À l'époque, ça courait pas les rues, ça roulait pas les rues. Partait de Porte de Choisy jusqu'à Orly, en passant par les villes du hip-hop. Ivry, Vitry, Choisy-le-Roi et Orly. Et c'est une partie de mon enfance, parce que j'ai mes cousins qui habitaient là-bas, à côté d'Orly. Et lorsque j'y allais d'abord avec ma mère, et ensuite tout seul, par des moyens de déplacement différents, d'abord. Et donc j'ai toujours cette image de franchir le périphérique et rouler au milieu de cette ville anciennement ouvrière, avec les graffitis, les lieux mythiques où résidait chaque groupe, chaque rappeur. Et c'était un peu comme si je roulais au milieu d'un musée du rap français. Et c'était fou, je m'en rappelle encore avec beaucoup d'émotion. Aujourd'hui, ça a été remplacé par le tramway.
En même temps, quand vous commencez, au milieu des années 90, on ne peut pas dire que vous êtes la première génération, parce qu'avant vous, il y a IAM, il y a NTM, il y a MC Solar. on parle de génération, en même temps, c'est entre 3 et 5 ans d'écart. Hein, c'est pas non plus très... C'est pas,
bah, c'est pas une génération. Quand les jeunes, c'est beaucoup.
Mais bon, oui, voilà. mais cela dit, vous arrivez quand même à un moment où le rap, on peut le dire, peut-être explose.
Oui,
c'est-à-dire que là, vraiment, il y a un foisonnement après les pionniers.
Tout à fait. C'est ce moment où le rap français... Avant, c'était du rap en français. Et le rap français est arrivé à l'âge d'or que j'ai connu, à la fin des années 90. Pourquoi ? Parce que les textes parlaient de ce que vivait un jeune français. Avant, je disais que c'était trop écrit et que c'était assez conceptuel à part NTM. C'était assez conceptuel, mais ça restait trop écrit, trop poétique, à une certaine distance. Et lorsque le rap français est arrivé, avec des groupes de comme 113, qui parlent de la cité, avec ce mélange de leur culture et du rap américain, mais avec un détachement de plus en plus identitaire qui fait que le rap français commence à avoir son identité en termes de musicalité. Pour moi, c'est là que tout a vraiment commencé.
Avec, par exemple, les Sages Poètes de la Rue.
Les Sages Poètes de la Rue.
Pete Bacardi.
Pete Bacardi, c'est arrivé avec moi, oui, avec les Time Bomb, Booba, enfin les Lunatiques, Booba, Ali, les X-Men, Pete Bacardi. Et avant ça, il y avait des groupes comme la Clica aussi. Et c'est des groupes qui souvent étaient bilingues et avec une culture hip-hop très très prononcée, pointue.
Est-ce que vous diriez que c'est aussi un moment où le rap sort de l'underground, que les labels se structurent? Donc Time Bomb, on va évidemment en parler, mais il y a deux labels aussi, qui étaient en plus par une femme.
Oui,
c'est étonnant quand même, ça mérite d'être signalé, hein,
Laurence.
Donc structuration des labels, et puis affirmation de style très marqué, des identités très fortes. Est-ce que c'est à ce moment-là, par exemple, que vous prenez votre nom de scène ? Oxmo Puccino, donc on l'a compris, ça n'est pas votre vrai nom.
Non.
Mais c'est votre nom de scène.
Oui.
Est-ce que c'est à ce moment-là que vous prenez ce nom de scène ?
Tout à fait.
Au début.
C'est dès le début, parce que je faisais la musique de manière confidentielle. Je rappelais tout à l'heure que l'image n'était pas intrinsèque de la musique, c'est-à-dire que on n'était pas obligé d'avoir une figure qui colle à ce qu'on écoute. Donc on pouvait écouter un chanteur sans avoir aucune idée de ce à quoi il ressemble. Donc j'ai longtemps chanté masqué. J'ai longtemps chanté masqué à l'insu de mes proches. C'est-à-dire que j'ai eu cette validation de mon quartier. Et après, j'ai continué à me développer en dehors du quartier sans le faire savoir à personne. Et c'est...
Pour quelle raison ?
Pour être tranquille si jamais j'arrêtais. Pour être tranquille tout court. Pour pas qu'on vienne me poser des questions inutiles. Pour pas qu'on me juge. Et donc j'ai commencé cette vie parallèle jusqu'à ce qu'elle rejoigne ma vie lorsque j'ai sorti Mama Lova.
En même temps, vous parliez de vous dans vos chansons. Donc
parlais de moi, mais sous un pseudo.
Donc c'est parler de vous sans vous mettre en avant.
Oui, jamais. D'ailleurs, j'ai longtemps eu comme doctrine de utiliser la première personne du singulier le moins possible. C'est un exercice.
Et Oxmo Puccino, ça vient d'où ? Pourquoi Oxmo Puccino ?
Ça vient de nulle part. Pour moi, c'est un nom qui m'était destiné. Dans le sens où il me fallait un nom. Je ne savais vraiment pas quel nom d'emprunt. Vraiment, j'avais aucune idée. Donc, j'ai dessiné des lettres et des bâtons que j'aimais bien.
Parce que vous dessinez beaucoup.
Je dessinais beaucoup. Je dessinais beaucoup avant d'écrire. C'est pour ça que j'ai cette écriture graphique, imagée. Et donc, j'ai dessiné des lettres que j'aime bien, comme le O, le M, des lettres rondes, des lettres jolies, douces. Et j'ai eu ce X, ce M, ce O. Je l'ai dessiné dans tous les sens. Et j'ai gardé la résonance la moins étrange. Voilà. Donc, j'ai gardé Oxmo. Et j'ai mis Puccino comme nom de famille parce que je trouvais ça joli et que ça résonnait et que ça avait un petit côté un peu ridicule. Et j'aime beaucoup ça, parce que ça dénote avec le sérieux avec lequel j'abordais ma science, mon art. Et donc, ça m'a donné Oxmo Puccino.
Sonne aussi italien, ça sonne opéra.
Oui, exactement. Mais je ne connaissais pas, Puccini. Non. Et donc, je vois son nom apparaître. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et je me suis dit, ah, c'est marrant, ça. Bah, je vais m'appeler comme ça. Voilà.
Et c'est resté.
Et c'est vrai qu'au début, c'était étrange à présenter. Et puis, les gens se sont habitués.
Alors, vous intégrez Osmo Puccino ce label indépendant, Time Bomb.
Oui.
Time Bomb, c'est pas n'importe quel label, parce que c'est ce qui bouleverse le rap français des années 90.
Oui.
Est-ce
oui.
que vous pouvez nous le présenter
Alors,
rapidement.
Time Bomb, c'est Mars, Vlavo, Ricky Vlavo et Kuss. Et les frères Vlavo aussi, pas loin, jamais loin.
Qui anime ce label.
Oui. Et donc, moi, je connaissais de vue et des réputations. Bah, Kuss, il faisait partie des Little MC. Mars, je ne le connaissais pas. Mais Ricky, je le connaissais parce qu'il fréquentait les soirées et qu'il avait cette réputation de voyou qui faisait peur à tout le monde. Donc, dès que Ricky arrivait dans une soirée, je sortais beaucoup à l'époque, tu savais qu'il était là. Parce qu'il y avait une vape qui arrivait, et puis lui, il avait cette espèce de nonchalance violente qui faisait que ça pouvait partir en vinaigre en une seconde, même s'il arborait un grand sourire. Et je l'avais rencontré donc quand j'étais jeune. J'ai jamais oublié, et je l'ai retrouvé plus tard dans Time Bomb, dans ce trio magnifique, par le biais des X-Men, donc composés de Ilji et Cassidy, et des Lunatics, qui avaient intégré le groupe après notre rencontre. Donc, un jour, l'un et l'autre, indépendamment les uns des autres, font, ouais, on est entré dans un collectif, ça s'appelle Time Bomb, je rencontre les X-Men, ils me disaient la même chose un mois après. Et j'adore l'esprit. Et comme c'est déjà mes amis, je traîne avec eux. Et je suis amené à traîner avec eux lorsqu'ils vont en studio, lorsqu'ils se réunissent. Et finalement, je suis adopté. Et plus tard, je suis adoubé comme rappeur.
Et c'est un collectif
familial,
qui révèle.
C'était...
C'est un collectif qui vous révèle vous et qui révèle d'autres talents.
Ah oui, oui,
Booba,
bah ils ont beaucoup travaillé.
Ils avaient les X-Men.
L'organisation, la stratégie, les vinyles. Marc Bombatac qui a beaucoup aidé. Et ça a été le début de tout. C'est ces projets qui ont été qui ont tout fait commencer. Ouais.
Et il y a le label d'un côté et puis il y a peut-être des radios de l'autre parce qu'à ce moment-là il y a Génération.
Oui, Génération.
Avec l'émission originale Bombatac où vous faites des flows, vous faites des freestyles sur cette radio. Et puis il y a Skyrock bien sûr.
Skyrock un peu moins. Skyrock un peu moins parce que
Dès 96, en tout cas,
c'était une radio sous condition. C'était une radio sous condition et
ça
surtout...
Ça veut dire quoi, une radio sous condition?
Il fallait rentrer dans les codes. Il fallait rentrer dans un format qui garantissait une reconnaissance du public. Et lorsqu'on est, on croit en ce qu'on fait, on ne peut pas rentrer dans tous les formats. Mm-hmm. Et le souci, c'est que c'était la seule radio qui passait du rap à l'époque et votre succès en dépendait. Et c'est la raison pour laquelle je me suis lancé sur scène, faute de pouvoir compter sur une radio. Et de toute façon, je préférais ne pas compter sur une radio, parce qu'on disparaissait en même temps que sa diffusion, que la diffusion, que les passages. Donc, à court terme, ça pouvait être intéressant, mais à long terme, ça ne me garantissait rien.
Ce qui vous a garanti un premier succès,
oui, Osmo Puccino. L'enfant seul.
Ah, l'enfant j'aurais dit Mamalova, non 97
97.
Mamalova, c'est
oui,
97.
Tout à fait, mais je dissocie le succès de Mamalova du reste de mes tentatives. Pourquoi ? Parce que Mamalova faisait partie d'un gros projet, que IAM avait une influence incontestable à l'époque, et que quel que soit le projet qui sort, ça passerait sur les radios. Et ça dépendait pas de moi. C'est-à-dire que si Mamalova était sorti sur un autre projet, que Sad Hill de Khéops, je ne sais pas s'il aurait eu un retentissement aussi grand.
Oui, parce que en fait, Mamalova est sortie sur la compilation
Sad Hill,
qui était élaborée par Khéops, et Khéops, c'était le compositeur et DJ du groupe IAM.
Exactement.
Notre bas
voilà,
de page.
La boucle est faite.
98, c'est une année importante.
Oui.
C'est une année importante pour le rap français. D'abord, le collectif Time Bomb se sépare.
Oui.
C'est l'apogée de Skyrock, quand même, 98, qui a contribué, vous le disiez, parce que c'était des codes, mais a institutionnalisé le rap en France, notamment avec l'émission Planète Rap, dès 96. Mais 98, c'est une année importante pour vous, puisque c'est l'année de sortie de votre premier album.
Tout à fait.
Opéra Puccino. Alors, pour quelqu'un qui ne savait pas qui était Puccini à l'époque, Opéra Puccino, quand même. Et là, c'est un disque qui paraît sur le label Virgin. Est-ce que ça veut dire que c'est un tournant pour vous ?
Il sort sur le label, deux labels qui est chez Virgin, oui, dirigé par le label qui était dirigé par Laurence Twitou à l'époque. Bah, oui, c'est l'entrée dans l'industrie. L'industrie, la grosse diffusion, la promotion. Enfin, là, tout de suite, je saute dans le grand bain. À mon insu, oui.
À votre insu?
Oui, parce que j'avais aucune idée de ce qu'était l'industrie. Une industrie encore naissante. Et je mesurais pas la portée de ce qu'on appelle le succès. Avec la notoriété soudaine.
Parce que ça a été un formidable succès, Opéra Puccino.
Oui, ça a été un grand succès. Ça a été un grand succès à sa sortie. Un grand succès critique, mais pas un grand succès en termes de vente. Donc un grand point de reconnaissance, mais qui a perduré. J'adore cette histoire de mettre 8 ans à être disque d'or. C'est-à-dire que j'ai mis 8 ans à vendre 100 000 disques et obtenir ce macaron doré qui atteste d'un succès financier. Ouais, un succès mathématique, je préfère dire.
Donc, peut en parler peut-être de cet album.
Oui, avec plaisir.
Autobiographique et politique à la fois.
Oui, tout à fait.
Par exemple, avec le titre Peu de gens le savent.
Sociopolitique. Mmh. Mmh. Tout à fait. Parce que j'avais une vingtaine d'années de vie à résumer sur cette première œuvre, comme tous les artistes à leur premier projet. Et donc, ça contient 23 ans de réflexion, de questionnement, de colère, de joie, d'amitié, de tout ce qui construit un homme. Donc c'est intense. C'est intense et la sincérité du projet fait que ça me permet d'être écouté quelques années plus tard.
C'est un album qui s'ouvre sur une vision de vie.
Oui.
La vision de vie, c'est un commence d'ailleurs par un extrait samplé du discours...
Oui.
Du pasteur noir dans le film Mississippi Burning d'Alan Parker. On le dit ?
Oui, bien sûr. Et c'est exactement ce que je ressentais à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ne puisse définir mieux mon état d'esprit que ce passage. Je vous le dis, je n'ai plus l'amour dans le cœur. Aujourd'hui, seule la colère emplit mon cœur. Et je veux que vous partagiez cette colère afin que vous soyez tous accablés comme moi. Oui. J'ai trouvé ce passage, mais il a explosé devant moi comme une grenade. Et je me suis dit, mec, c'est pas possible d'être aussi précis sur ce que je ressens à ce moment-là. Je me devrais d'ouvrir l'album avec ce passage.
C'est aussi un univers assez sombre.
Oui, bien sûr.
Très cinématographique.
Oui.
Alors là, je pense à Hitman, qui est vraiment comme un film de gangster. Et puis les références au Black Mafioso, dont on a parlé dans l'épisode précédent.
Oui.
Il est question de guerre de pouvoir, il est question de flingue, il est question de manque d'avenir, de communautarisme, de déterminisme. Mmh. C'était ça toutes les visions de vie que vous
aviez
à l'époque ?
Exactement, c'est ça. C'est pour ça aussi que je ne pouvais pas me projeter en termes de carrière dans la musique, parce que toute cette sincérité était le fruit d'un désespoir justifié, argumenté et assez clair pour l'époque. Donc, je ne pouvais pas raconter autre chose, malgré le désir d'expérimenter d'autres choses plus lumineuses. Oui. Et c'est peut-être le fond de ce désir larvé d'espérer quelque chose de meilleur malgré tout, qui fait que j'ai peut-être été entendu.
Peut-être aussi parce que il y a déjà et toujours de l'humour, de l'autodérision.
Oui.
Comme un petit soleil. Toujours.
Oui, c'est un ingrédient nécessaire pour prendre... c'est le début de la démarche de prendre la vie du bon côté, je dirais. D'essayer de tirer ce qu'on peut prendre qui puisse nous apporter un peu d'allégresse. Parce qu'on peut trouver de l'allégresse dans toute situation.
Ben après, c'est les années 2000.
Oui.
Alors déjà, un mot peut-être sur le monde du rap qui change, qui se commercialise.
Ben pour moi, ça correspond à un écroulement.
À un écroulement.
Oui, par rapport à ce que j'ai connu. J'ai commencé le rap après des années d'exploration dans le hip-hop, qui est cette culture dont est issu le rap et qu'on oublie souvent. Donc j'ai pratiqué le graffiti, le dessin, la danse, J'ai essayé le DJing, c'est un peu compliqué. J'ai pratiqué la musique, d'abord avec un instrument, et ensuite avec les machines, et je me suis mis au rap après. J'ai profité de l'émergence d'un nouveau mouvement. Et c'est magnifique à vivre. C'est, il y a une excitation, il y a une, cette énergie qui vous fait faire des pulls avec 10 ficelles. Tout est possible. Il y a cette sensation d'être un pionnier. Et avec ce désir de reconnaissance commerciale qui prouverait que nous sommes là pour les bonnes raisons et que nous sommes à la bonne place. Et donc, au début de tout ce qu'on a désiré, arrive le revers de la médaille. Et le revers de la médaille, c'est vulgarisation, baisse de la qualité, prédominance des chiffres, des ventes. C'est les labels qui commencent à agir comme des majors. C'est la qualité qui devient de moins en moins mémorable. C'est-à-dire que ben, c'est moins bien. C'est moins bien. Le public suit beaucoup, suit pas trop. Les formats commencent à nous ennuyer parce que le rap est une musique très codée encore. Il n'y a pas le droit de chanter. Enfin, il y a beaucoup d'injonctions qui font que l'évolution est compliquée et que dès qu'on veut tenter d'apporter autre chose, on est tout de suite banni. Et on se retrouve dans une espèce de no man's land artistique. Donc, 2000, les années 2000 arrivent. C'est pas marrant, c'est pas la fête.
D'où ce deuxième album, L'amour est mort.
L'album qui n'a pas marché, L'amour est mort.
En 2001, vous n'étiez pas dans une phase très joyeuse.
Non, mais pour parler de cet album, j'en parlais l'autre jour avec Stéphanie Binet du journal Le Monde. Et on reprenait sur ce titre qui était assez sombre. Et je lui disais que les artistes avec ces histoires d'antenne dont je parlais sont un peu des espèces de messagers intemporels. Dans le sens où ils partagent des visions qui les touchent et aussi une vision du monde et peut-être même quelque chose souvent de prémonitoire. Et donc, moi, j'ai sorti L'amour est mort. Après l'arrivée d'Internet dans les foyers, je faisais partie des premiers dans mon quartier à avoir mis Internet. J'avais touché mon avance, j'avais un peu d'argent. Donc, Internet, j'avais découvert ça dans le bureau d'une amie. Plutôt, j'étais choqué. Et donc j'ai commencé à avoir une espèce de vision du monde probable dans lequel on allait évoluer avec cet embryon des réseaux. Voilà, première version d'Internet. Et tout d'un coup, j'ai une vision noire. Elle est relatée dans Demain peut-être sur L'amour est mort. Et il faut savoir que l'album est sorti en mai 2001, et donc avant septembre 2001. En septembre 2001... Le monde est entré dans une autre phase qui explique tout ce qu'on vit aujourd'hui en termes de relations humaines, de rapports sociaux, de géopolitique. Et donc, aujourd'hui, dire l'amour est mort interpelle beaucoup moins qu'au début des années 2000. À l'époque, c'était choquant. C'est pour ça qu'on m'avait presque même refusé ce titre pour lequel j'ai insisté. Mais aujourd'hui, l'amour est mort, c'est d'un commun. Ça ne choque plus personne.
C'est après ce deuxième album que vous avez eu envie d'arrêter ?
Oui, après ce deuxième album, tout à fait. Parce que j'avais proposé quelque chose qui était profondément sincère, avec l'ambition d'emmener quelque chose de fort et qui pourrait servir. Et ça n'a vraiment pas rencontré son public. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'étais pas à ma place. Tu t'es trompé, c'est ton truc, c'est pas la musique, c'est pas le rap. Cette industrie, elle n'a rien à voir avec tes convictions. Non, faut que tu te tires. Voilà. Après le deuxième album, c'est ce que je me suis dit.
Et pourtant, Cactus de Sibérie, c'est 2004. C'est 3 ans plus tard.
Trois ans, c'est beaucoup. À l'époque. 3 ans, c'est beaucoup à l'époque. Et c'était vraiment à contre-courant. C'était pas à contre-courant, c'était à contre-cœur, carrément. Je croyais plus trop en rien. J'avais encore le goût de la musique parce que c'est ma vie, avant le rap et jusqu'à la fin de mes jours. Mais ils n'avaient plus cette conviction parce que j'avais gardé cette impression de ne pas être à ma place. Et c'est vrai que lorsqu'on écoute le rap de l'époque et ce que je propose en Cactus de Sibérie, tout de suite, il y a un décalage avec ce qui fait qu'un artiste est apprécié et marche à cette époque-là. Je suis en décalage parce que je propose tout de suite autre chose. Lorsque j'ai produit L'Hippopète Bar...
En 2006.
En 2006, 3 ans plus tard, j'ai travaillé avec des musiciens uniquement, mais j'avais déjà commencé sur le Cactus et Sibérie à travailler avec des musiciens. Et le fait de rentrer sur un projet uniquement acoustique n'a pas été compris du milieu hip-hop et de tous les médias qui les entourent. Ce qui fait que ben j'ai été mis de côté, immédiatement mis de côté, comme n'étant plus un rappeur, mais pas chanteur, enfin...
C'est une période où ce décalage, vous allez le creuser, en fait. Vous allez l'approfondir, parce que c'est après que vous vous ouvrez carrément à la chanson populaire.
Oui.
Vous allez écrire pour Florent Pagny en 2008. Vous enregistrez avec Grand Corps Malade. Enfin, vous sortez du chant rap.
Totalement.
Est-ce que vous sortez du chant rap, Oxmo Puccino, pour aller chercher une reconnaissance plus large?
Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai commencé le rap, j'étais fan d'Aznavour, de Brel, de Aristide Briand, je l'ai découvert plus tard, Piaf. Et donc j'ai toujours eu ça dans mon ADN. Et donc lorsque on cherchait à définir ma musique, je ne prétendais que faire de la musique. Lorsqu'on cherchait à la définir, je ne prétendais qu'en faire. C'est tout. Je ne me posais pas de questions parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, je reste un rappeur parce que c'est une question d'identité, c'est une question de fondamentaux. Après, mon évolution dépend des choix que je fais et j'ai très vite choisi de faire de la musique. Peu importe les courants, peu importe les tendances.
C'est vous qui alliez les chercher. Après, il y a eu Benjamin Biolay, Bernard Lavilliers.
C'est des rencontres.
C'est des rencontres.
C'est des rencontres. C'est des rencontres et les rencontres, on en fait ce qu'on veut. Et moi, j'ai choisi de m'enrichir avec. Tous les artistes que j'ai rencontrés m'ont apporté quelque chose. Et finalement, par la force des choses, ont trouvé chez moi quelque chose qui pouvait les intéresser.
Et est-ce que du point de vue de votre création, ça a changé quelque chose? Ces premières collaborations,
oui,
hein, on
temps,
parlera
tout
de
temps,
la suite après.
Tout le temps. C'est une approche de la musique différente qui est nourrie du contact avec la façon dont pratique la musique mon alter ego. C'est des techniques, c'est des méthodes de travail, c'est une approche différente, c'est des visions différentes que j'essaie de comprendre et qui me donnent des clés pour rentrer chez moi.
À quel moment, donc, dans ces années-là, ou est-ce un peu après, à quel moment vous vous êtes dit « Allez, je continue. Allez, je lâche plus. »
À l'Hippopète Bar. Parce que L'Amour est mort, je voulais déjà arrêter. J'ai été encouragé à continuer sur Cactus et Sibérie, qui a rencontré un succès encore plus discret que L'Amour est mort. Donc, heureusement que j'avais des concerts, mais la tournée du Cactus et Sibérie était tellement difficile que je savais que je n'en referais pas une comme ça. Je n'aurais pas pu. Donc, il fallait que je trouve un moyen de continuer à monter sur scène en conservant ma passion. Et lorsque Nicolas Pflug de Blue Note est venu me proposer ce projet de disque de jazz sur son label à l'époque, c'était la seule chose qui me restait à faire.
Là, vous avez bien fait, parce que c'est magnifique cet album. Merci beaucoup, Oxmo Puccino. On va continuer et terminer avec l'épisode 5, La belle rime, pas le coup d'escrime. Allez, à demain. C'était À Voix Nue avec Oxmo Puccino, réalisation Manouchak Fachaï, prise de son Florent Layani. Un grand merci à Léa Varin pour son aide. Chargée de programme À Voix Nue, Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.